Chapitre 12. Le capitaine et le maire. Le capitaine Anne Pritchard n'avait pas l'habitude de vivre dans un cadre aussi luxueux, mais il n'était nullement impressionné pour autant. En règle générale, il avait une sainte horreur de l'introspection, et il détestait toute forme de philosophie et de métaphysique qui n'était pas en rapport direct avec son travail. Et il ne s'en portait pas plus mal. Il travaillait essentiellement pour ce que le ministère de la guerre appelait le service des renseignements. Les gens soucieux d'utiliser le terme officiel parlaient quant à eux des services secrets, et les esprits romanesques préféraient généralement employer le mot « espionnage ». Malheureusement pour les amateurs de frissons et autres adeptes des feuilletons en tridi, l'activité en question, quel que soit le nom qu'on lui donne, s'avère en réalité assez sordide. Elle implique notamment la pratique quasi quotidienne de la trahison et de la mauvaise foi. La société l'excuse puisqu'on la pratique dans l'intérêt de l'État. Mais, dans la mesure où l'introspection semblait toujours devoir mener le capitaine Anne Pritchard à la conclusion que, même en tenant compte de cet intérêt sacro-saint, la société est plus facile à apaiser que la conscience de l'individu, il décourageait vigoureusement la pratique de l'introspection. Or, alors qu'il se trouvait seul dans la luxueuse antichambre du maire, le capitaine Pritchard s'aperçut qu'il était justement en train de se livrer, bien malgré lui, à ce qui ressemblait étrangement à de l'introspection. Sans cesse, des hommes avaient bénéficié d'avancements à son détriment, bien qu'ils fussent assurément moins doués que lui. Il avait supporté une pluie constante de mauvaises notes et de réprimandes officielles, et il y avait survécu. Et obstinément, il s'était cramponné à la certitude que son insubordination, toujours dans l'intérêt de l'État, finirait bien par être reconnue comme le service qu'elle était en réalité. Il se trouvait donc là, dans l'antichambre du maire, avec 5 soldats qui le gardaient respectueusement, et sans doute la perspective de passer en conseil de guerre. Les lourdes portes de marbre s'écartèrent doucement, silencieusement, révélant des murs d'aspect satiné, un tapis de matière plastique rouge et 2 autres portes de marbre doublées de métal. 2 fonctionnaires, dont le costume droit qui était déjà en vigueur 3 siècles auparavant, s'avancèrent et annoncèrent à tue-tête « Une audience pour le capitaine Anne Pritchard de l'information ». Ils reculèrent en s'inclinant avec cérémonie, tandis que le capitaine s'avançait. Son escorte s'arrêta à la porte et il entra seul dans le cabinet. Le seuil franchi, il se retrouva dans une vaste pièce à la décoration étrangement sobre, où derrière un grand bureau étonnamment anguleux, était assis un petit homme, presque perdu dans l'immensité du lieu. Le maire Inbourg, 3e du nom en ligne directe, était le petit-fils du premier Inbourg, personnage tout à la fois brutal et efficace, qui avait manifesté la première de ses qualités de façon spectaculaire par la manière dont il avait pris le pouvoir, et la seconde par l'habileté avec laquelle il avait mis un terme aux ultimes parodies d'élections libres sur sa planète, tout en parvenant, à la surprise générale, à régner ensuite de manière relativement paisible sur cette même planète. Le maire Inbourg était également le fils du deuxième Inbourg, lequel avait été le premier maire de la Fondation à accéder à ce poste par droit de naissance, et qui ne valait que la moitié de son père, car il n'était que brutal. Quant au maire Inbourg, 3e du nom, et second à occuper cette charge par droit de naissance, il était aussi le moins remarquable des 3, car il n'était ni brutal, ni efficace, mais seulement un excellent comptable qui n'était pas né là où il fallait. Inbourg, le 3e, possédait un étrange mélange de traits de caractère qui, aux yeux de tous, sauf aux siens, apparaissait comme autant de succès d'années. Ce maniaque de l'ordre n'hésitait pas à ériger en système une simple passion pour l'arrangement géométrique le plus élémentaire. Un intérêt fébrile pour les détails les plus insignifiants de la bureaucratie devenait chez lui du zèle. Quant à son indécision chronique, il la qualifiait volontiers de prudence élémentaire lorsqu'il lui arrivait d'avoir raison, et l'entêtement aveugle dont il faisait preuve la plupart du temps n'était à ses yeux que de la détermination. Avec cela, il ne gaspillait pas l'argent, ne tuait personne inutilement, et était plein de bonnes intentions. Si tel était le cours des sombres pensées du capitaine Preacher, tandis qu'il attendait respectueusement devant le grand bureau, rien sur son visage impassible ne le trahissait. Pas une seule fois il ne toussota. Pas une seule fois il ne se dandina d'un pied sur l'autre. Il ne bougea même pas un orteil. Enfin, le gratouillis incessant du stylo cessa. Le maire leva lentement son visage émacié en direction du nouvel arrivant, puis il s'empara d'une feuille de papier couverte de petits caractères qui se trouvait au sommet d'une pile de documents élevés avec une précision millimétrique pour l'aller poser aussitôt sur une autre pile toute semblable. Le maire Hindebourg croisa soigneusement ses mains devant lui, prenant bien garde de ne pas déranger l'ordre minutieux qui régnait sur son bureau.
« Capitaine Anne Preacher de l'information, » dit-il.
Le capitaine Preacher, obéissant au protocole, se pencha, un genou touchant presque le sol, et inclina la tête jusqu'à ce qu'il eût entendu
« Relevez-vous, capitaine Preacher. » Vous êtes ici, capitaine Preacher,
poursuivit le maire d'un air compatissant,
en raison d'une mesure disciplinaire prise contre vous par votre officier supérieur. Le dossier de cette affaire m'est parvenu par la voie hiérarchique. Comme rien de ce qui se passe dans la fondation ne me laisse indifférent, j'ai pris la peine de demander sur votre cas un supplément d'information. J'espère que vous n'en êtes pas surpris.
Non, Excellence, dit le capitaine Preacher, impassible. « Votre justice est proverbiale. »«
Vraiment ?»« Vraiment. »
Le maire dit cela d'un ton ravi. Les verres de contact colorés qu'il portait reflétaient la lumière, en donnant à ses yeux une lueur dure et sèche. Il consulta méticuleusement une série de dossiers à reliure métallique posés devant lui. À mesure qu'il parlait, ses doigts glissaient sur la tranche des documents et faisaient crisser les feuillets de parchemin.
« J'ai ici vos états de service, capitaine. Tout y est. Vous avez 43 ans et vous êtes officier des forces armées depuis 17 ans. Vous êtes né à Loris, de parents anacréoniens. Pas de maladies infantiles sérieuses, une attaque de myocarde. Bon, sans importance. Instruction prémilitaire à l'Académie des sciences, études supérieures hypermoteur, bonne formation. »
Oh, très bien, félicitations.
Entrée dans l'armée comme sous-officier le 102e jour de la 293e année de l'ère de la Fondation. »
Il leva un instant les yeux, tout en refermant le premier dossier pour ouvrir le second.
« Vous voyez, dit-il, que dans mon administration, on ne laisse rien au hasard. De l'ordre, de l'organisation. »
Il porta à ses lèvres un globule de gelée rose parfumé. C'était son seul vice, et encore ne s'y adonnait-il qu'avec parcimonie. La preuve en était que le bureau du maire était dépourvu du cendrier désintégrateur quasi omniprésent d'ordinaire en pareil lieu, car le maire ne fumait pas, pas plus bien entendu que ses visiteurs. Le maire poursuivit son ronronnant monologue sur un ton monocorde, presque hypnotique, prodiguant tour à tour, et de façon tout aussi anodine, éloges et réprimandes. Il replaça lentement, avec une précision toute millimétrique, les classeurs dans leur position d'origine, en pile parfaite.
« Bien !»
s'écria-t-il soudain.
« Tout cela est pour le moins inhabituel. Vous êtes très doué, semble-t-il, et il est hors de doute que vos supérieurs vous apprécient à votre juste valeur. Je note que vous avez été blessé 2 fois en service commandé, et que l'on vous a décerné l'ordre du mérite pour courage exceptionnel. Eh bien, capitaine, reprit-il d'un ton enjoué, vos états de service sont très brillants. Ce sont des faits qu'il convient de ne pas minimiser.
Le capitaine Preacher demeurait impassible et figé au garde-à-vous. L'étiquette exigeait qu'un sujet à qui le maire accordait l'honneur d'une audience ne s'assît pas. Usage souligné de façon peut-être inutile par le fait qu'il n'y avait qu'un seul siège dans la pièce, celui du maire. Le protocole exigeait en outre que le visiteur se contentât de répondre aux questions du maire. Celui-ci fixa alors le soldat droit dans les yeux et poursuivit sur un ton sensiblement plus grave.
« Toutefois, vous n'avez pas eu d'avancement depuis 10 ans. et vos supérieurs font sans cesse état de votre entêtement. Vous êtes, signale-t-on, d'une indocilité chronique, incapable de vous conduire correctement en face de vos supérieurs. Peu soucieux, semble-t-il, d'entretenir des relations sans heurts avec vos collègues. Vous êtes, en bref, un faiseur d'histoire. Comment expliquez-vous cela, capitaine ?
Excellence, je fais ce qui me semble correct. Les services que j'ai rendus à l'État et mes blessures portent témoignage que ce qui me semble correct est également dans l'intérêt de l'État.
C'est une déclaration de bon soldat, capitaine. Mais une dangereuse doctrine. Nous en reparlerons plus tard. Plus précisément, vous êtes accusé d'avoir à 3 reprises refusé une mission en dépit des ordres écrits de mes représentants légaux. Qu'avez-vous à dire à cela ?
Excellence, dans une période de crise comme celle que nous traversons, alors que des sujets de première importance sont clairement négligés, la mission en question passe pour moi au second plan.
Tiens donc ! Et qui vous dit que ces sujets dont vous parlez sont de première importance ? Et quand bien même ils le seraient ? Qui vous dit qu'on les néglige ?
Excellence, cela me semble tout à fait évident. Mon expérience et ma connaissance des événements que mes supérieurs ne nient pas me le font clairement comprendre.
Mais, cher capitaine, êtes-vous donc aveugle au point de ne pas vous rendre compte qu'en vous arrogeant le droit de décider de la politique du service de renseignement, vous usurpez les prérogatives de votre supérieur ?
Excellence, mon devoir est avant tout envers l'État, et non pas envers mon supérieur.
Raisonnement fallacieux, car votre supérieur a lui-même un supérieur, l'État. Et l'État, c'est moi. Mais qu'il ne soit pas dit que vous avez des raisons de vous plaindre de ma justice dont vous dites qu'elle est proverbiale. Exposez-vous même la nature de l'acte d'indiscipline qui est à l'origine de toute cette affaire.
Excellence, mon devoir est avant tout de servir l'État, pas de mener l'existence d'un marchand à la retraite sur la planète Kalgan. J'avais pour instruction de diriger l'activité de la Fondation sur la planète, de mettre au point une organisation capable de contrebalancer les agissements du seigneur de Kalgan, notamment en ce qui concerne sa politique étrangère.
Je sais cela, continuez.
Excellence, mes rapports n'ont cessé de souligner quelles étaient les positions stratégiques de Kalgan et de ses systèmes vassaux. J'ai fait état de l'ambition grandissante du seigneur de guerre locale, de ses ressources, de sa détermination à étendre son domaine et de son amitié profonde ou peut-être sa neutralité envers la Fondation.
J'ai lu attentivement vos rapports, continuez.
Excellence, je suis rentré il y a 2 mois. À cette époque, rien n'annonçait une guerre imminente. On pouvait tout au plus observer que toute attaque possible et imaginable pouvait être le cas échéant repoussée avec la plus extrême facilité. Il y a 1 mois, un mercenaire inconnu s'est emparé de Kalgan sans coup férir. Celui qui occupait jusqu'ici les fonctions de seigneur de guerre sur Kalgan n'est, semble-t-il, plus de ce monde. Pourtant, nul ne parle de trahison. On se contente d'évoquer le puissant génie de l'étrange condottiere qui a réussi un tel coup de maître. Le mulet.
Le quoi ?
S'exclama le maire en se penchant comme si son interlocuteur venait de laisser échapper une grossièreté. Excellence, c'est le nom qu'on lui donne, le mulet. En fait, on ne sait rien de très précis sur lui. Les gens parlent peu, à vrai dire. Mais j'ai rassemblé des bribes d'informations que l'on colporte sur son compte et j'ai trié les plus vraisemblables. Naissance, position sociale, néant. Père inconnu. Sa mère est morte en le mettant au monde. Son éducation, celle d'un vagabond. Son instruction, celle que tout vagabond peut espérer dans les bas-fonds de l'espace. On ne lui connaît d'autre nom que celui du mulet. Sobriquet qu'il s'est décerné lui-même et qui trouverait sa source, si on en croit la rumeur populaire, dans sa prodigieuse force physique et son obstination.
Quelle est sa force militaire, capitaine ? Peu importe sa force physique.
Excellence, on parle d'énormes flottes. Mais les gens sont peut-être influencés à cet égard par les événements étranges qui ont précipité la chute de Kalgan. Le territoire qu'il contrôle n'est pas vaste, bien qu'on en puisse déterminer les limites exactes. Néanmoins, il convient d'enquêter sur cet homme.
En effet.
Le maire tomba alors dans une sorte de rêverie éveillée. Et lentement, en 24 coups de son stylet, dessina 6 carrés disposés en hexagone sur la feuille blanche d'un bloc-notes qu'il déchira, plia soigneusement en 3 et glissa dans une niche sur sa droite, où le silencieux processus de désintégration atomique eut au fait de la détruire.
« Alors, dites-moi tout, capitaine. Vous venez de m'expliquer sur quoi il convenait d'enquêter. Mais vous, sur quoi vous a-t-on ordonné d'enquêter ?»«
Excellence, il y a par là-bas une planète, un trou perdu où, semble-t-il, on ne paie pas les impôts. »«
Ah ? Et c'est tout ?»« Vous ignorez visiblement, faute d'en avoir été informé, que ces hommes qui ne paient pas leurs impôts descendent en droite ligne des anciens marchands d'autrefois. Ce sont des anarchistes. » Des rebelles pathologiques qui prétendent vénérer la Fondation comme la mère de toutes les cultures, mais ne se privent pas d'en mépriser ouvertement les fondements. Vous ignorez également, faute, là encore, d'en avoir été informé, que ce trou perdu, comme vous dites, n'est pas le seul dans son genre, loin de là, qu'il en existe beaucoup plus que nous ne le pensons. Ils conspirent entre eux et jouissent de la complicité active de tous les éléments criminels qui subsistent sur le territoire de la Fondation. Même ici, capitaine, même ici. »
L'emportement du maire retomba comme un feu de paille.
« Vous l'ignorez, capitaine ?»«
Excellence, on m'a dit tout cela. Mais en tant que serviteur de l'État, je me dois de le servir fidèlement. » Or, le serviteur le plus fidèle est celui qui obéit à la vérité. Quelles que soient les implications politiques de ces petites colonies marchandes, les seigneurs qui ont hérité des débris du vieil empire possèdent bel et bien le pouvoir. Les marchands, quant à eux, n'ont ni armes ni ressources. Ils n'ont même pas d'unité véritable. Je ne suis pas un percepteur d'impôts. Ce genre de mission est bon pour les débutants.
Capitaine Pritchard, vous êtes un soldat, je vous le rappelle. Je ne commettrai pas l'erreur de vous laisser carte blanche au point de vous permettre de désobéir à mes propres ordres. Prenez garde. Ma justice n'est pas faite que de faiblesse, sachez-le. Capitaine, nul n'ignore que les seigneurs d'aujourd'hui, pas plus que les généraux de l'Empire en leur temps, ne constituent pour nous une menace réelle. La science de Seldon, qui prédit l'évolution de la Fondation, s'appuie non sur l'héroïsme individuel, comme vous semblez le croire, mais sur les tendances économiques et sociales de l'histoire. Nous avons déjà traversé avec succès 4 crises, n'est-ce pas ?
En effet, Excellence. Pourtant, Seldon est le seul à connaître ce que vaut sa science. Nous-mêmes n'avons que la foi pour nous soutenir. Lors des 3 premières crises, comme on me l'a enseigné, la Fondation était dirigée par de sages gouvernants qui ont prévu à temps la nature de ces crises et pris les précautions nécessaires. Si tel n'avait pas été le cas, qui peut dire ce qui se serait passé ?
Oui, capitaine, mais vous omettez la 4e crise. Voyons, capitaine, nous n'avions alors pas de gouvernement digne de ce nom. Et nous avons dû néanmoins affronter en lice, si je puis me permettre cette métaphore, le chevalier le plus habile qui fut jamais, doté de l'armure la plus solide qu'on eût jamais vue, et le plus fort de tous, avec. Et pourtant l'histoire a suivi son cours. Nous devions gagner, nous l'avons fait.
C'est vrai, Excellence. Mais cette histoire dont vous parlez n'a pris un cours inéluctable qu'après une lutte désespérée de plus d'un an. La victoire inéluctable que nous avons remportée nous a coûté 500 vaisseaux et un 500 000 d'hommes. Excellence, rappelez-vous ce que dit le dicton. Aide-toi, le plan Seldon t'aidera. Le maire Hindbourg fronça les sourcils et se lassa soudain de la patience qu'il affichait. L'idée lui vint qu'il avait tort de se montrer aussi conciliant, puisque visiblement on prenait cela pour un encouragement à l'argutie, aux vaines controverses, aux discussions sans fin.
« Quoi qu'il en soit, capitaine !»
répondit-il alors fort sèchement.
« Seldon nous garantit la victoire contre les seigneurs.
et je ne puis, dans les circonstances actuelles, laisser se disperser nos efforts. Ces marchands dont vous parlez sont issus de la Fondation. Leur faire la guerre reviendrait à nous lancer dans une véritable guerre civile. Or, le plan de Seldon ne nous garantit rien sur ce point, puisqu'il représente autant que nous, finalement, la Fondation. Il nous faut donc nous contenter de les mater. Vous avez vos instructions.
Excellence.
Silence, capitaine. On ne vous a pas interrogé. Vous avez vos instructions. Vous allez les suivre. Toute autre discussion avec moi, ou avec ceux qui me représentent, sera considérée comme de la trahison. Vous pouvez disposer.
Le capitaine Anne Pritchard s'agenouilla de nouveau, puis sortit lentement à reculons. Le maire Hindbourg, troisième du nom et second à occuper cette charge par droit de naissance, retrouva son calme et prit sur la pile de gauche une autre feuille de papier. Il s'agissait d'un rapport sur les économies que permettrait de réaliser une réduction de la quantité de mousse métallique employée pour confectionner les passements des uniformes de la police. Le capitaine Anne Pritchard de l'information trouva une capsule personnelle qui l'attendait lorsqu'il regagna son cantonnement. Elle contenait des ordres précis et soulignés en rouge avec la mention « urgent ». Le capitaine Anne Pritchard avait l'ordre formel de se rendre sur la planète rebelle appelée Oasis. Le capitaine Anne Pritchard, seul dans son spatiojet monoplace, mit tranquillement et délibérément le cap sur Kalgan. Il dormit cette nuit-là du sommeil de l'entêté qui est finalement parvenu à ses fins.